La Bonne Graine, un podcast entièrement réalisé à la main. Hors série spéciale, Semaine de l'Artisanat, en collaboration avec la mairie du 11e. Bonjour, bienvenue sur le podcast de La Bonne Graine, l'école d'ameublement de Paris. Aujourd'hui, je reçois Guylaine Tortereau, perruquière. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors Guylaine, vous êtes perruquière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier et de votre parcours ?
Alors, le métier de perruquière ou de perruquier, c'est déjà un très très vieux métier, et un métier d'artisan d'art. Et notre vocation est évidemment de fabriquer des perruques. Nous, on a une particularité, c'est qu'on fait des perruques pour le cinéma, le théâtre, enfin d'une manière générale le spectacle. Donc, c'est déjà des choses un peu particulières. Je dis des choses volontairement parce que c'est un peu comme des objets qui participent à raconter un peu des histoires de fiction et qu'on ont cette vocation-là et cette volonté-là. Donc c'est un travail déjà très très particulier. C'est pas une perruque entre guillemets classique. Et moi, mon parcours, il est déjà assez long. Et ça, j'ai à peu près 40 ans de temps de travail et avec une grande partie sur les plateaux de cinéma. Enfin, j'ai une formation de coiffeuse classique au départ, et après j'ai été vers le théâtre, et après vers le cinéma, en connaissant personne, mais en tout cas avec une très grande volonté d'aller par là. J'ai fait aussi en parallèle une licence d'art plastique pour compléter. Je sentais bien que j'avais culturellement des manques d'information, j'avais une curiosité, j'avais pas toujours des réponses. Je me sentais un peu fragile par rapport à plein de choses, de connaissances que j'avais pas. Et donc ça m'a bien aidé, bien soulevé en fait, en tout cas élevé même je dirais. Et après donc j'ai fait à peu près 25 ans de plateau de cinéma où là j'étais chef, ce qu'on appelle chef coiffeuse perruquière sur les plateaux avec des films importants, d'autres un peu moins importants, mais en tout cas qui étaient toujours importants au moment où je les faisais en tout cas.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais des fois très gros et très très lourds comme des Astérix, comme des films avec Luc Besson.
Et c'est vrai que votre travail, une fois qu'on commence à en parler, ça devient évident parce qu'on se doute bien que dans ces films un peu historiques ou des choses comme, par exemple, vous avez travaillé récemment sur Marie-Antoinette, la série, on se doute bien qu'il va y avoir des perruques parce que c'est dans les mœurs et dans la connaissance un petit peu générale de tout le monde que les gens portaient des perruques à ces périodes-là. Mais après, il y a des choses auxquelles on pense moins, mais qui sont pourtant tellement importantes.
Alors, bizarrement, notre travail est à 80%, on va dire 75%, 80% pour les films contemporains. Et pourtant, on pourrait croire que c'est pratiquement l'inverse, que c'est 80% de films d'époque. Mais pas du tout. En fait, on travaille plus sur les films contemporains que sur les films d'époque. Les films d'époque, effectivement, c'est marquant parce que c'est toujours des grosses fresques assez, assez riches en couleurs, en quantité. Et puis, chaque personne qui rentre a une perruque. Donc, voilà, donc il y a des quantités assez, assez fortes. Mais en tout cas, sur le nombre de films sur lesquels on intervient, je vous dis, c'est entre 75 et 80% contemporains.
C'est vrai que les gens pensent pas forcément, mais en regardant un peu votre travail, on voit qu'il y a perruque, évidemment, la grosse perruque de Marie-Antoinette, mais il y a aussi les postiches plus fins, il y a aussi tout ce qui est sur le visage, les barbes, les moustaches. C'est extrêmement vaste, en fait, comme domaine d'application.
Ah oui, c'est tout le corps, en fait. On peut aller des pieds jusqu'à la tête. Mais on est plus souvent sur la tête que sur le reste du corps. Mais c'est vrai qu'on a des interventions. Dès qu'il y a du poil ou du cheveu, d'une manière générale, c'est notre travail, ouais, effectivement. En fait, on est surtout. L'idée de notre métier, c'est aussi qu'on ne soit pas vu. Oui. Donc, si on existe à l'image, enfin, si on nous définit à l'image, si on arrive à voir qu'on est là à l'image, on a un peu raté notre travail, quoi.
Oui. Votre job, c'est d'être justement
absent.
Absent et de créer l'illusion parfaite, justement.
C'est ça, d'être absent et d'être discret et juste être là pour juste donner un petit peu une odeur ou une couleur à une histoire de fiction qu'on raconte, quoi, c'est tout.
Du coup, votre travail, quand vous faites beaucoup de spectacles, enfin en fait du spectacle, est-ce que vous intervenez en fin de chaîne ou est-ce que vous prenez part aussi à quand les personnages sont créés? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vient discuter avec vous, qu'on évoque avec vous? Est-ce que vous devez connaître les personnages forcément pour imaginer leur aspect?
Absolument, on a surtout on est dans un premier temps à la lecture du scénario, ça c'est évident. Après, sans scénario, on n'a rien à dire, en fait, rien à proposer. Et après cela, il y a des rendez-vous avec le metteur en scène. Si je suis pas chef coiffeuse sur le film, avec le chef coiffeur et avec l'acteur et les acteurs. Et à partir de là, sur ce rendez-vous ou sur ces rendez-vous, on construit. Il y a les costumes aussi qui interviennent énormément, il y a le maquillage, il y a les décors, tout ça, le chef opérateur qui donne une couleur au film, donc une couleur qui va nous donner une lumière d'ambiance, qui va aussi avoir une incidence sur ce qu'on va produire ou ce qu'il va nous obliger à faire, en fait, parce que des fois, il y a des... Si c'est une couleur qui est un peu sombre ou un peu jaune ou je ne sais quoi, effectivement, quand on fait nos mélanges de couleurs ou nos propositions de couleurs de cheveux, effectivement, évidemment, ça a une incidence sur le rendu. Donc, du coup, on est vraiment à chaque fois en collaboration étroite avec tous les autres chefs de poste. Et le départ, le point de départ, c'est quand même le scénario et le metteur en scène qui, là, nous raconte, pas en nous demandant exactement ce qu'il veut, mais en nous faisant part de ses envies, de ses impressions, de comment, avec des adjectifs plus ou moins précis, mais qui sont colorés, odorants, porteurs, qui racontent, qui nous met un peu en selle pour raconter l'histoire comme il a envie de la raconter.
Aujourd'hui, on parlait un petit peu tout à l'heure des délais, et parfois vous êtes du coup plusieurs ateliers à travailler sur des gros projets. Vous êtes combien aujourd'hui chez Perruque ?
On est 5.
Vous êtes 5.
Plus l'homme de ménage. César, qui est formidable.
Et du coup, j'imagine qu'une perruque, c'est toujours une personne qui commence et qui la fait en entier, ou est-ce que vous travaillez à plusieurs sur un objet ?
Ça dépend vraiment des... Alors, on peut pas être plusieurs sur la même tête, ça c'est sûr, mais il peut y avoir des parties de perruques qui sont faites par une personne, la suite est continuée par une autre personne pour des raisons d'organisation ou pour des raisons de savoir-faire qui est peut-être plus pertinent pour ce modèle-là. Donc il n'y a qu'une personne sur la tête, mais en tout cas sur cette tête, il peut y avoir différents techniciens qui...
Ouais. Et ça met, c'est très, très, très aléatoire, hein, mais globalement, on met combien de temps pour faire une perruque de tête complète ?
Alors le temps pour faire la perruque avec l'essayage et la fabrication de la tête pour faire le bonnet sur mesure, pour faire après tout ça, c'est à peu près, c'est un minimum de 4 semaines.
4 semaines.
Pour, une tête normale.
Oui, quelque chose de classique, à peu près standard.
Voilà, c'est ça.
Je me demandais aussi quels étaient les matériaux que vous utilisiez pour faire une perruque de manière générale. Qu'est-ce qu'on utilise ?
On utilise majoritairement du cheveu européen, bien évidemment, parce qu'on fait quand même beaucoup de des gens européens. Donc on va pas leur mettre des cheveux chinois ou et parce que c'est plus gros, enfin c'est pas pareil, c'est pas ça se mélangerait pas, on n'y croirait pas déjà. Ou alors pour faire un effet particulier, bien évidemment. Après, alors ce qu'on peut appeler dans cette matière, il y a deux formes aussi. Il y a ce qu'on appelle le cheveu de coupe, qui est un cheveu qui est pas coloré du tout, qui a été coupé sur quelqu'un et qui est comme ça, brut. Et là, il y a toute une nuance de mélange dû soit à l'âge, dû aussi au soleil. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est enfermé dans une cave pendant à peu près 4 ans, c'est sûr que le cheveu sera d'une couleur uniforme du début jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'on a raconté une histoire où la personne est enfermée pendant 4 ans. Donc, rien que la couleur, déjà, et le comment ce cheveu s'est patiné, déjà, raconte déjà quelque chose, quoi. Même si c'est pas en lecture directe et évidente, quand on regarde le film, on dit, tiens, il n'est pas sorti de la cave pendant 4 ans. Non, c'est pas ça. On va peut-être pas dire ça directement. Mais en tout cas, s'il a les cheveux qui sont patinés, on va avoir du mal à y croire qu'il a été enfermé pendant 4 ans. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est un peu bizarre.
Inconscient, mais on ressent bien qu'il y a quelque chose
qui colle pas. Un truc qui nous gêne, quoi, en fait. Donc, on est à chaque fois sur ces petites choses de détails, ce qu'on peut appeler des détails. Et autrement aussi, on utilise plein d'autres matières qui peuvent porter justement ces histoires-là. Par exemple, je pense à Astérix et l'Empire du Milieu, Astérix Obélix et l'Empire du Milieu. J'ai rajouté systématiquement dans beaucoup des perruques des villageois, des Gaulois, des matières un peu, une base de cheveux, et au sein de ça, du crin, par exemple, ou un peu d'yaque, ou un peu de mohair. Tout ça pour les rendre, d'avoir ce côté un peu sauvage. Ouais. C'est-à-dire que le cheveu se pose jamais tranquillement. Ouais. C'est-à-dire que, comme moi ou comme vous, c'est jamais en place. C'est toujours un peu surexcité, comme s'ils étaient bourrés d'épis. Vous voyez, et on sent ce côté un peu nerveux, quoi, qu'on peut voir sur le dessin. En fait, c'était de trouver l'idée qui retranscrit un peu cette excitation du Gaulois, du villageois gaulois.
Qui tient pas en place.
Et qui est représenté par un petit trait noir, d'ailleurs, dans le dessin. Et ce trait noir, en fait, moi, je l'ai retranscrit en mettant au sein d'une matière classique, on va dire, même si la couleur était un peu brute, parce qu'ils sont souvent dehors. Il y a le côté, c'est pas des marins pêcheurs, mais c'est pas loin de cette patine-là, en tout cas. Et donc, il y avait l'effet patine, et il y avait aussi l'effet nerveux, qui a effectivement, que je voulais retranscrire sur ces, qui n'est pas un truc de coiffage, donc de coiffeur, mais un truc de matière qui s'énerve, quoi. Et on sent qu'on peut rien y faire. On a beau lui mettre un litre d'eau dessus, ça n'empêchera rien, il sera toujours surexcité, très nerveux, et voilà. Et je crois qu'on a réussi à faire quelque chose, je dis on là, parce que du coup je reviens au sein de toute l'équipe, c'est-à-dire mon équipe et l'équipe qui avait sur le plateau également, enfin de tournage. on a réussi à trouver quelque chose qui pouvait raconter ça. En fait, le tout, c'est de s'arrêter juste avant que ça soit... encore une fois, pour pas nous voir, pour nous sentir, mais pas nous voir.
Que ça soit vraiment imperceptible, mais effectivement, c'est là qu'on voit aussi l'importance de votre expertise, de votre recul, de votre œil professionnel, parce que c'est comme quand on fait de la restauration immobilière, il faut que la restauration soit invisible, mais il faut quand même intervenir. Et c'est là qu'on vient doser, justement...
Ouais. C'est comme, je vous le dis très justement, une restauration où faut... c'est pas pour avoir un tableau neuf ou un cadre neuf, c'est pour avoir quelque chose qui puisse se lire encore, mais qu'on lise aussi les années qui sont passées dessus. En fait, et une mauvaise restauration, c'est ça. C'est quand c'est tout... On s'en fout que ça soit tout neuf. C'est vraiment pas le... Enfin, nous, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment... On part de zéro, quoi. Oui. Et le metteur en scène non plus nous demande pas des choses là-dessus. Il nous dit simplement, on fait cette histoire-là. Oui. En plus, Astérix Obélix, par exemple, c'est très... Enfin, tout le monde connaît, quelque part. Connu, donc, je suis juste dans une position où je suis dans... Mon métier, c'est ça. C'est de lui faire une proposition ou des propositions. C'est-à-dire, je viens en réunion avec un petit bout de yak, un petit bout de crin, un petit bout de mohair, un petit bout de cheveux. Donc, ça fait rire beaucoup de monde, en général, quand j'arrive avec tout ça à la réunion, comme une table, comme on est ici. Mais en fait, du coup, c'est pour que je puisse l'emmener sur ce que je vais raconter. Parce que des mots, c'est sympa, mais des fois, en plus, le metteur en scène a beaucoup de choses à faire. Il a quand même plein d'informations partout, plein de questions partout, tout le temps, surtout sur des gros projets comme ça. Donc le doux, c'est l'aider de le mettre vite dans ce qu'on raconte, au lieu de faire que la phrase, quoi. Là, c'est du concret et d'avoir effectivement d'expliquer sa pensée d'une manière un peu plus concrète.
Plus concrète. Ouais. Et du coup, on parlait tout à l'heure, vous évoquiez la couleur qui est choisie sur les plateaux, toute cette ambiance-là. Est-ce que votre travail a été modifié avec les évolutions techniques des caméras qui sont hyper performantes, avec ce genre de choses?
Ah oui, complètement. Déjà, on n'est plus, enfin, très rarement en film 35, on est en HD maintenant. Donc, ça veut dire HD, c'est quand même, ça veut dire haute définition. Donc, on est quand même beaucoup plus en danger qu'avant. Avant, on avait toujours un petit grain qui nous protégeait pour
ça
voir.
Ça lissait un peu.
Enfin, en tout cas, là, on a un point de netteté qui est du nez jusqu'à l'oreille, quoi. Avant, c'était juste la pupille de l'œil et. Ça s'arrêtait à ça. Donc, du coup, nous, derrière, on était pas un point mou, mais presque un petit flou, quoi. Là, maintenant, on est quand même net jusqu'au tulle, jusqu'à notre fabrication. Donc, on est un peu plus fragile. Mais du coup, on utilise des matières plus fragiles aussi. Donc, qui s'usent plus vite. Donc, qui demandent aussi une manipulation un peu plus attentive et précise. Et effectivement, la lumière... Alors, il y a deux choses qui changent. C'est qu'effectivement, là... déjà, ils éclairent beaucoup plus vite qu'avant.
D'accord.
Donc déjà, on n'a plus ce temps de tournage. Avant, c'était quand même, il fallait une demi-heure d'installation, champ contre champ, enfin un axe et dans l'autre axe, hop, on rechangeait toute la lumière. Et voilà, c'était à peu près minimum un quart d'heure ou une demi-heure. Là, maintenant, c'est, il tourne le truc et hop, c'est tout léger. Et voilà. Donc il y a ce truc de rythme de tournage qui est plus pareil du tout. Donc ça veut dire que voilà, ça change quand même des choses pour tout le monde là du coup, pour vraiment tout le monde, les comédiens aussi en fait. Et effectivement, ils osent aussi un peu plus, j'ai l'impression en tout cas dans la comme la pellicule est... enfin c'est plus de la pellicule, c'est de l'HD, peut être traité vraiment après énormément. D'un seul coup, on contrôle pas trop ce qui va arriver à la fin, ça peut être une surprise à la fin. Oui. Donc on est un petit peu plus en découverte.
Oui, c'est encore, il y a encore.
Parce que, il y a tout ce qu'on appelle du travail de post-prod après, sur cette pellicule est plus possible que sur le 35. Enfin, ils peuvent aller beaucoup plus loin, ils peuvent aller même très loin. Par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Valérian, de Luc Besson. On a tout retourné sur fond vert.
Oui.
On n'a vu aucun décor.
Oui, donc faut complètement
projeter. On avait des personnages qui se baladaient comme ça. Il y avait un trou qui était là, mais qui était censé être... mais on n'a jamais vu le trou.
Oui, c'est compliqué.
Ouais. Et du coup, c'est encore un autre truc. Et puis, on avait des personnages qui étaient juste avec des petits capteurs. On n'a jamais vu le costume. Enfin, parce que ce n'était pas encore fait. Ou on avait un bout de coiffure ou un bout de costume, mais le reste était fait en post-prod.
Vous avez d'ailleurs fait pour ce film toute une armature pour créer justement un effet spécial de cheveux.
Ah oui, pour la Valériane, méduse.
Oui.
Oui, c'est ça. Mm. Ah oui, ah, c'est marrant, vous savez ça.
Je me suis renseignée.
Alors en fait, la demande de Luc Besson, c'était Carin de la Vigne, à un moment donné, était kidnappée par une méduse. Donc elle était à l'intérieur du corps de la méduse. Donc ça veut dire que c'était aquatique, quoi. Quand elle était dans ce corps de méduse, elle avait du texte aussi, c'est un détail important. Donc du coup, on pouvait pas immerger Karin de la Vigne et la faire parler, parce que déjà,
ce serait...
c'était un peu bizarre, et les cheveux étaient que en haut. Et puis la demande, c'était un peu comme de l'eau, mais qui restait un peu lourde en fait, comme l'intérieur d'une méduse. C'est une espèce de liquide presque, enfin un peu aqueux quoi, un peu machin. Donc du coup, j'ai essayé plusieurs méthodes. Une lamentable qui est électricité statique qui a absolument pas marché.
faut tester.
Mais bon, voilà. Mais par contre, j'avais eu une très belle machine, mais ça n'a pas marché du tout. Après, il y avait deux autres possibilités qui étaient effectivement de mettre une piscine en plastique et Cara au sol et les cheveux bien étalés en lui multipliant les cheveux, parce que dans l'eau, ça réduit, que ça bouge pas pareil, avec des petits ventilos qui font bouger les cheveux et machin. C'était pas très gracieux. Pour le visage, parce qu'on est allongé, donc les traits sont pas très beaux. Et c'était un gros plan où elle parlait, encore une fois. Mais voilà. Et l'autre solution que j'ai proposée en réunion, faut être un peu culotté, un peu, faut pas avoir peur de
sortir des sentiers battus, d'imaginer un peu.
Surtout de se prendre une un revers de truc, parce que c'est quand même des fois des propositions qui peuvent paraître complètement ridicules et absurdes. Et donc j'arrive avec un petit cercle en métal. Et avec des petits élastiques partout, et je prends, on était que les chefs de poste autour de la table, et avec Luc Besson en tête de gondole. Et j'arrive, il me dit, voilà, t'as trouvé des idées? Ben, je dis, oui, j'en ai deux. Une qui est bizarre et une qui est pas terrible. Il me dit, bon, allez, ça commence bien déjà, là. Évidemment. Et donc, je sors mon petit cerceau, là, avec les petits élastiques. Je prends un technicien, un chef de poste au hasard, je lui mets autour de la tête. Donc, c'était la version maquette, hein. Donc, c'était fait brick et broc. Parce que pour déclencher le financement, il faut aussi
prouver que ça peut marcher.
Il faut tester faire la maquette un peu pourrie, on va dire, entre guillemets. Et là, je commence à bouger le truc avec les cheveux qui sont censés être les cheveux de Cara qui vont vers le cerceau, des grosses mèches comme ça. Et je bouge le cerceau en disant, voilà, tu vois, on peut avoir un petit mouvement. Je fais beaucoup de gestes avec les mains, donc je ne sais pas si ça va pouvoir se sentir. Mais d'avoir donc avec ce cercle les cheveux qui puissent bouger autour de sa tête d'une manière souple.
Souple, oui.
Voilà, pas anguleuse, pas raide. Et donc, du coup, après, à l'image, les essais fixes images pouvaient rajouter l'eau, entre guillemets. L'eau image. Voilà. Donc là-dessus, tout le monde est mort de rire à la table, bien évidemment. Donc là, c'était là où il faut vraiment avoir un égo solide parce qu'on dit. Bon, hein. Et là, par contre, Luc me dit, OK, c'est super, mais on va en mettre deux. Et là, j'ai dit, oui, hop, là, pas. Mais l'idée en soi est stupide. En fait, c'est pas stupide, mais c'est.
C'est farfelu, quoi.
Oui, et puis c'est très basique, c'est très. Et effectivement, pour le savoir-faire et tout ça, on pioche partout, en fait, dans ce qui se fait maintenant, de ce qui se faisait avant. Ça, ce truc de cercle qu'on bouge, c'est vraiment un truc sans technique, c'est vraiment basique, et c'est un truc qu'on aurait pu sortir il y a 30 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas que maintenant. Et à la fois, on est sur des films où il y a des effets numériques à n'en plus finir, donc faut vraiment à chaque fois, et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a un mélange de... Ouais, il y a un panel énorme de techniques qu'on se retient pas d'utiliser. Donc, voilà, là-dessus, c'est vraiment formidable.
Mais de pouvoir mélanger vraiment des innovations complètes avec des choses qui sont ancestrales. Et tout ça cohabite très bien, finalement. Et c'est qui fait que le résultat va être top, après.
D'où l'intérêt d'avoir une vraie formation avec un vrai artisan d'art, ou même une formation large, en fait, de curiosité.
Oui,
voilà.
De s'ouvrir l'esprit, de voir d'autres choses. Vous parliez tout à l'heure de votre licence en art appliqué, justement, qui a dû beaucoup vous aider à
vous ouvrir. Ah oui, tout à fait. Ça m'a déclenché que des points d'interrogation partout.
Oui, justement.
Ça clignotait partout, mais... ça m'a déclenché une curiosité encore plus curieuse, quoi. Mais c'est ça. C'est
Et du coup, dans votre parcours, est-ce que ça a toujours été une volonté de travailler dans le spectacle?
Oui.
Oui, toujours. Et vous y avez imaginé ce monde-là? Comment vous l'avez découvert, là? Par hasard?
En passant dans les coulisses? Non, en regardant la télé.
Ouais. Non, mais c'est pas un métier commun.
Au départ, j'étais en robe de chambre, allongée par terre sur la moquette, en train de regarder la télé. Ouais, non, c'était magique quand même, la télé. Oui. Moi, je suis en plus de 1963. Donc, effectivement, la télé, c'était pas plein de chaînes. Hein, oui. C'était. Mais il y avait la télé quand même. Hein.
C'était déjà. Oui, quand même. Quand même.
Et effectivement, c'était quand même assez magique d'avoir ce truc. Il y avait des Angélique Marquise des Gens, des choses comme ça, des fresques très colorées. En plus, c'était très coloré pour le coup, à cette époque-là. Et j'avoue que c'était assez magique. Après. Effectivement, j'étais très vite au cinéma, mais à raison de 3-4 fois par semaine, quitte à m'endormir devant d'ailleurs, à aller retourner les voir. En plus, c'était pas vraiment. Enfin, moi, j'étais pas à Paris, j'étais à Saint-Nazaire. Et effectivement, c'était. Il y avait deux salles ou trois salles. J'avais vite fait le tour, hein, donc je pouvais pas aller plus que 2 ou 3 fois par semaine au cinéma. En tout cas, j'avais pas d'autres films.
Et c'est donc là qu'on voit aussi que c'est important, parce que artisan d'art, on se dit que c'est bien, il faut être l'excellence dans son domaine, qui peut parfois paraître très précis ou être une niche, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour aussi de culture, de curiosité, d'entretien, de former son œil, de quand vous dites, enfin, vous travaillez dans le cinéma, vous avez vu des tonnes de films, et c'est, ça nourrit forcément votre œil, et ces petits détails imperceptibles dont on parlait tout à l'heure, de bah c'est pas crédible, bah c'est parce qu'on en a vu tellement en fait que notre œil s'est formé à ça et s'est rodé à ça, quoi.
Faut savoir aussi que c'est faut très bien connaître le support sur lequel on travaille, c'est-à-dire moi j'ai la matière, c'est le cheveu, mais le support qui l'accueille, c'est l'image animée. Donc à partir de là, le devoir et l'important, c'est de connaître bien comment fonctionne cette image, en fait. Comment c'est monté, comment c'est filmé, le sens du cadre, le rythme du montage. En fait, il faut s'intéresser, même si on n'est pas professionnel du montage, de la lumière. Vous savez, un film, c'est beaucoup de gens et à la fois pas tant que ça. Et il y a 20 corps de métiers différents. Après, ça s'additionne, il peut y en avoir plus. Mais en tout cas, dans vraiment la grosse spécialité. Et c'est effectivement, au bout de 20 ans, c'est sûr que vous connaissez le boulot de chacun. Ou alors vraiment, vous êtes...
Pas très curieux.
Bah non,
ce serait un peu dommage.
C'est pas très curieux et puis c'est pas très intéressant. Parce que toute la journée, on a des petits temps d'attente, en fait. Effectivement, on s'aide pas les uns les autres sur le travail qu'on a à faire, parce que c'est vraiment du travail professionnel, mais ça n'empêche qu'on les voit et qu'on en discute et tout ça. Mais même en dehors de ça, quand on est dans la cour de l'industrie où est installé mon atelier, on est 45 artisans d'art et on est 50 ateliers en tout, 55 je crois. Et effectivement, rien que ça déjà, donc ça me fait penser à un film, moi, parce qu'en fait, on a tous des métiers différents. Mais on a tous un peu les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, quand vous rencontrez des gens comme Michel Guillanton, qui sont quand même des gens, ou Sébastien Barbier, qui sont quand même possédés d'une passion et d'une curiosité aussi sur l'art, sur l'histoire de l'art, chacun avec sa petite fenêtre. Enfin, sa fenêtre, c'est pas une petite fenêtre.
Mais son angle, en tout cas, d'appréciation.
Voilà, mais toujours dans la même direction de curiosité, de se nourrir. Ils sont toujours très curieux, moi, de ce que je fais. Quand je fais des chiens pour Hermès ou des oiseaux pour Hermès, ils sont tous là en train de passer en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?»«
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Mais qui a fait la sculpture en dessous ?» Donc voilà, ils sont toujours très curieux et il n'y a pas de métier qui les intéresse pas, en fait, dans l'artisanat d'art. Il y en a aucun qui les... tout le monde, on est tous comme ça, tous curieux de ce que fait l'un et l'autre. Et ça, ça traduit quand même pas mal de choses, quoi.
Oui, un sens de... une curiosité, un amour, une volonté de partage aussi qui est très fort dans les valeurs de l'artisanat, quel qu'il soit. Et en fait, effectivement, qu'on soit perruquière, qu'on soit doreur, qu'on soit horloger, on a tous un intérêt vers faire du beau, faire de ses mains, faire quelque chose qui a du sens... On a forcément beaucoup de points communs et des directions communes.
Oui, tout à fait. Et sensible, et aussi très sensible à sensible et curieux, quoi, en fait.
Oui.
Dès qu'il y a une expo ou il y a un truc qu'on a croisé ou un spectacle qu'on a vu,
on partage,
on le diffuse. Après, les gens y vont ou pas, mais en tout cas, quel plus rassembleur. Les spectacles, j'ai un peu plus du mal, moi. Mais ça arrive un peu. Mais pour les expos, c'est vrai qu'on se refile l'info très vite en disant, faut aller voir absolument cette expo. C'est formidable. Et là, d'un seul coup, on s'arrange, ou même dans les galeries et tout ça.
C'est ça pour vous aussi aujourd'hui, être artisan en 2022, c'est la solidarité qu'il y a entre les uns et les autres.
Oui, je pense qu'elle existait déjà. Peut-être il y a eu une période où c'était un peu chacun pour soi dans ses petits secrets. À partir du moment où les quartiers ont été un peu explosés, en fait. Par exemple, vous avez la Bastille, où c'était quand même beaucoup d'ébénistes, beaucoup de travailleurs du bois. Le côté des appartements, des lofts, des choses comme ça, enfin des gens qui comment ça s'appelle, la spéculation immobilière, etc., a fait peut-être que ça a séparé un peu les gens, parce qu'avant ils travaillaient quand même par quartier, c'était le quartier des horlogers, le quartier des ébénistes, le quartier des perruquiers, peut-être pas, mais il y a très longtemps peut-être, et ça a explosé vraiment à cause de ces problèmes de logement et de d'atout charme, d'atelier pour faire des lofts. Et là, je suis ravie parce que c'est en train de revenir, en fait, et c'est déjà revenu. Et l'exemple même étant la cour de l'industrie.
Oui.
Et ça, cette cour de l'industrie, elle n'est pas née par hasard. C'était un privé avant. Et c'est la mairie qui a racheté. Et mille merci, parce que c'est super. Et je pense que ça a dépassé même leur, tous leurs espoirs, parce que c'est vraiment une chose qui est devenue vraiment très, très, très vivant. Il y a tous les âges. Il y a Sébastien Barbier, par exemple, il a été formé là. Maintenant, il a pris un atelier là. Donc, il y a vraiment une continuité. Et maintenant, c'est une... C'est une pépinière de savoir-faire et de et en plus c'est un endroit merveilleux. En plus c'est on fait des portes ouvertes. Enfin on s'intègre aussi pour c'est pas évident parce que c'est pas une habitude qu'on a aussi d'ouvrir nos portes et de parler de ce qu'on fait même de ce que je fais là que comme je suis en train de parler là aujourd'hui.
Ce temps-là,
Voilà et c'est un peu les la mairie du 11e notamment. Qui nous a un petit peu bousculé là-dessus en disant faut le faire et puis la mairie de Paris par rapport au GEMA ça serait bien d'ouvrir vos portes en plus c'est de l'argent public donc c'est la moindre des choses mais en dehors de ça même de s'habituer à partager et ça maintenant on le fait au début c'était on le faisait mais c'est vrai que c'était pas évident quoi c'était pas
pas dans les codes ou dans les habitudes aussi
ou dans les habitudes
c'est
de
pas
parler
si simple, hein.
Ouais exactement et là ça y est on est
vous êtes rodés
on est super
effectivement mais c'est vrai que c'est agréable parce que c'est des métiers moi aujourd'hui je suis à la bonne graine mais je suis tapissière de métier je suis formatrice aujourd'hui et je fais de la communication mais je suis tellement ravie de pouvoir découvrir ces ateliers que je croise que je vois mais j'ai l'occasion de pouvoir en discuter avec vous et j'en suis ravie et c'est vrai que c'est la mairie du 11e aussi qui nous pousse beaucoup à nous rencontrer et c'est une belle chose parce que je pense qu'on en faisant découvrir nos métiers en s'aidant les uns les autres on ira beaucoup plus loin évidemment.
Ah bah oui ça c'est sûr que oui absolument. Donc je pense pour revenir à la question de tout à l'heure, effectivement, je suis persuadée que ça reprend là-dessus des bonnes choses de partage ensemble et d'ateliers qui se côtoient et qui s'entraident à trouver des solutions, à trouver des même simplement, vous savez, simplement d'avoir une cabine pour peindre. Ben voilà, et ben nous Nicolas Pignon que vous connaissez déjà, il vient chez Bernard Maufray peindre ses pièces parce qu'il a pas la cabine chez lui.
Il s'entraide quoi, tout simplement.
Et puis
bonne
ça ne coûte rien à Bernard et puis c'est très sympa comme ça on voit la pièce, c'est rigolo, enfin c'est rigolo. C'est intéressant, pardon.
non.
Quand je dis rigolo, ça veut dire plutôt intéressant. Et voilà, donc du coup, on n'achète pas des outils obligatoirement. Ceux qui commencent n'ont pas obligatoirement tous les outils qui coûtent peut-être un certain prix. Et ben voilà, on se les échange, on se les partage. Et puis on échange autre chose
en retour.
C'est assez normal, en fait. Sauf que c'était un peu perdu, justement, à partir du moment où les ateliers étaient plus séparés et plus individuels, comme ça. Et les rassembler, c'est vraiment super.
Mais surtout, effectivement, on voit la richesse de rassembler des ateliers qui ne sont pas les mêmes, en fait.
Ouais.
On pourrait se dire, qu'est-ce qu'une perruquière va faire avec un doreur ? Ben non, c'est hyper intéressant, justement, de les faire collaborer.
Quand je suis arrivée, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit.
Oui, bah oui, sûrement. Qu'est-ce qu'on va faire avec une perruquière, enfin ?
Et là-dessus, la mairie du 11e et la CI aussi, de l'association de la Cour de l'Industrie, et les ateliers de Paris et la mairie de Paris sont très vigilants... pour les entrées, en fait, et la CEMAEST, pour les entrées des artisans d'art au sein de la Cour de l'Industrie, justement, qui est cette pluralité, cette diversité et cette exigence, quoi.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui, en 2022, veut pas forcément être perruquière ou perruquier, mais artisan d'art, en tout cas ? C'est des choses qui vous arrivent souvent d'être sollicité pour des formations, pour des stages
Oui, tout à fait. Il y en a de plus en plus, en fait. C'est, on a quand même un truc très nuisible, hein. Qui s'appelle le tuto.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un truc où ça fait croire aux gens que... Enfin, faire croire un truc faux, en fait, que ça se fait en 2 minutes, que le geste, on l'a inévitablement, que... Donc, du coup, ça raconte un peu une fausse histoire, parce que c'est... Et ça, le tuto, moi, j'ai bien eu quelqu'un qui est venu un jour en me disant, voilà, je vais donner des cours dans une école de perruquier. Moi, je dis, c'est bien. Donc vous êtes perruquière ? On me dit, non, justement, j'aimerais bien passer 15 jours chez vous pour apprendre. Et là, je crois que j'ai pété un câble, là.
Déjà, marche étonnante.
Oui, j'étais pas contente pour les élèves qui allaient après. Puis, par mon métier, c'était totalement insultant.
Bah oui.
Et puis, d'oser demander, je trouvais ça mais totalement incroyable, quoi.
Puis, c'est pas un savoir-faire qui s'acquiert en 15 jours et encore moins qui est assez pour être
transmis,
quoi.
Cette personne pensait ça et c'est une école qui dure 2 ans. Donc, il y a un truc qui marche pas très bien, quoi, là.
Il n'y a pas une bonne concordance des temps, comme on dit.
Non. Donc, voilà. Donc, le tuto est très nuisible et surtout mensonger. Et ça peut dépanner des trucs pour avoir des idées d'eux, mais en fait, les gens, je vois bien dans les portes ouvertes des journées des métiers d'art, ouais. En fait, il y a des gens, le premier truc, c'est le prix. Le deuxième truc, c'est combien de temps on met pour faire ça. Et à chaque fois, on leur dit, on met 4 semaines. Et on dit, oh là là, mais pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Enfin, parce qu'on fait tout à la main, en fait. Et oui, mais bon, vous pourriez pas faire des petits raccourcis de trucs, faire des coutures de...
Non.
Non. Voilà, donc c'est... Et si on a envie de faire ce métier-là, pour revenir sur la question de base, en fait, c'est... C'est d'en avoir très envie, en fait. C'est pas des métiers qui... C'est des métiers qui donnent énormément de plaisir. Ça, c'est vraiment... Puis quand on fait les portes ouvertes, comme dirait mon ami Bernard Maufray, l'ego est vraiment flatté toute la journée. Oui, mais parce que les gens regardent et posent des questions, etc. Donc, c'est vraiment un métier de passion. Sans passion et sans envie et sans curiosité sur plein de choses, on ne peut pas le faire. On ne tient pas. En plus... La richesse, elle est surtout là, en fait. C'est pas avec des métiers de la main, comme ça, qu'on arrive à être riche, enfin, si on, au sens monnaie, enfin, au sens argent, on est vraiment pas... C'est pas des choses où on peut gagner vraiment énormément notre vie, ça, c'est... On gagne notre vie très correctement, mais on n'est pas...
Faut pas le faire pour l'appât du gain, quoi.
Non, on n'achètera pas la piscine avec. Enfin, ou alors, on la fera.
Voilà. Mais on aura plein de copains qui savent le faire, donc c'est très bien.
Oui, c'est pas grave. Et on en fera une dans la cour de l'industrie avec un conteneur.
Parfait.
Ouais, on a plein d'idées. Non, mais c'est vrai que c'est pas des métiers où il faut se projeter en disant super, on va faire fortune, on va faire ça vite, on va faire je sais pas quoi. On peut pas, en fait, c'est pas possible.
Mais les gens font souvent effectivement ce raccourci d'oublier un peu vite que c'est une passion qui doit nous entretenir au quotidien. Et comme ils voient que l'objet fini a un certain prix, ils disent « Ah, mais du coup, ils sont forcément super riches. » Et ils voient pas le nombre d'heures et le fait que, en fait, non, le prix sort de quelque part et c'est pas juste pour faire joli ou se payer une belle piscine, c'est juste pour
payer les gens, payer les gens en fait, tout nous, simplement. Et même nous, en fait, aussi.
C'est ça, juste sortir un salaire.
Moi, je sais que je travaillais beaucoup, enfin, je gagnais beaucoup plus d'argent, enfin, plus d'argent, je sais pas. Plus d'argent quand j'étais sur les plateaux.
On vous demandait tout à l'heure quelques conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Quelles sont les formations à faire aussi pour faire ce métier-là?
Alors, la formation pour être perruquier, c'est... la première étape, c'est déjà d'être coiffeur, de passer son CAP de coiffure. Et il y a maintenant une formation, enfin depuis un petit moment maintenant, depuis une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle un bac pro perruquier.
D'accord.
Et qui se fait en 2 ans. Il y a une école publique d'ailleurs à Paris qui s'appelle Elisa Lemonnier qui fait plein de formations dont celle-ci,
d'accord,
plein d'autres bacs pro, et voilà, et donc ça fait il y a au bout des 2 ans on passe le bac. Bon, c'est comme dans tous les écoles, etc., quand on en sort il y a encore tout un chemin à faire pour mais il y a déjà eu le premier pas.
Eh bien écoutez, tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, c'est de continuer ce beau métier et de continuer à nous faire rêver à travers les différentes productions auxquelles vous collaborez. N'hésitez pas surtout, si vous nous écoutez, à passer la porte pendant les GEMA, à aller vous renseigner, à visiter cette cour de l'industrie si vous ne la connaissez pas déjà. Et merci beaucoup de votre temps, Madame Tortereau.
Merci à vous.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.